Bonjour, ça va? Vous tenez le coup? On est très très content d'être là, mon épouse et moi. Emmanuel, Eric, vous nous connaissez un petit peu. Donc on a vraiment la joie de vous partager ce matin par rapport à la maison de prière, à l'attente de la rencontre. Et j'étais vraiment réjoui de ce que Vito a dit tout à l'heure par rapport à une expression locale de la maison de prière et à une expression aussi dans les nations et de manière internationale, parce que je crois que Dieu agit vraiment de cette manière-là. Il travaille dans toutes les nations et aussi il y a des manifestations locales. Et j'étais aussi très content de voir ce que Rusty nous a apporté par rapport aux différentes nations, ces différents parfums, ces différents apports, ces fruits, des parfums qui se mettent ensemble. Donc on est très réjouis d'être ici ce matin. On va brièvement se présenter. Donc, on vient de Suisse, où on a grandi, où on est né. Et on a eu l'occasion de passer les deux dernières années aux États-Unis, au centre de nulle part, dans les grandes prairies, là où on appelle ça la Bible Belt, donc dans cette ceinture de la Bible, puisqu'il y a une profonde, et quelque chose de puissant au niveau de la parole de Dieu et au niveau du christianisme. Au niveau des églises, au niveau des missions, au niveau des maisons de prière, au niveau de la musique, au niveau des enseignements, etc. Donc il y a vraiment un puits là-bas. Et puis on a passé deux ans là-bas. Oui.
Statistiquement, peut-être que certains le savent, mais c'est bien à savoir, à côté du pourcentage de chrétiens qu'on a ici pour, en Europe, en France, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il est de 1% environ, en tout cas en Suisse. Je pense que c'est plus ou moins la même chose au niveau de la France. Donc, une personne sur 100 est chrétienne. Et là où, d'où nous venons, c'était 25% minimum. Donc, si tu as 4 personnes, une était chrétienne. Elle est toujours, d'ailleurs.
Voilà, donc on a grandi du côté de Neuchâtel, en Suisse, dans l'église locale. On a aussi été responsable d'église pendant de nombreuses années. Et autour des années 1999, par là, on a été impacté par la vision de l'éducation chrétienne, notamment à cause de Luc et Manuela et toute l'équipe ici. Donc, ils nous ont donné le virus et puis on a ouvert une école chrétienne en l'an 2000 à Neuchâtel, qu'on a malheureusement dû fermer en 2008. Et à partir de là, on a été très touchés par le message de la maison de prière, c'est-à-dire l'adoration et la louange perpétuelle à Dieu. Et en 2011, donc on est parti pour deux ans aux États-Unis pour visiter la maison de prière à Kansas City, qui est en plein centre des États-Unis et où ils ont depuis 14 ans de la louange, de l'adoration, d'intercession, 24 heures sur 24. Et c'est possible de visiter leur site. Vous pouvez aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et vous pouvez voir ce qui se passe là-bas. Donc ils louent Dieu et vous pouvez le voir en direct grâce à Internet. D'ailleurs, je vais vous distribuer tout de suite une petite carte. Et comme ça, ce sera fait. J'ai mon assistante Priscilla. Pour ceux qui sont intéressés à avoir l'adresse exacte, on a ramené ces petites cartes des États-Unis, donc c'est le moment ou jamais de les utiliser. Voilà. Tu voulais encore dire quelque chose pour la présentation ? Non. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, puisque le vif du sujet, ce n'est pas de parler premièrement de ce qui se passe aux États-Unis, mais de parler surtout de ce que Dieu fait dans le monde et aussi localement. Donc vous le savez peut-être ou pas, mais dans l'église Josué, ça fait bien des années qu'ils ont commencé des veilles de tente de la rencontre ou maison de prière, il y a différents noms, et à creuser ce puits que Dieu donne pour son église. C'est un outil puissant pour la présence de Dieu dans l'église. C'est le centre, c'est le cœur même de la vie de Dieu dans l'église. Donc l'église, c'est beaucoup plus que le culte du dimanche matin, c'est beaucoup plus que quelques œuvres sociales, c'est vraiment un peuple qui marche, qui avance et qui rencontre Dieu jour après jour et même plusieurs fois par jour. Donc la maison de prière, c'est un outil, entre autres, pour avoir cette relation avec Dieu jour après jour. Alors j'aimerais qu'on puisse plonger pour commencer dans Genèse. Je vous propose de prendre Genèse 2:15, où il y a ici Dieu qui parle. Et on voit l'histoire de Dieu parmi les hommes, Dieu qui a prévu un magnifique jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc un magnifique jardin et Dieu place l'homme dans ce jardin avec une mission, c'est de garder ce jardin et de le cultiver. Alors si on fait un petit peu d'hébreu, si on regarde un petit peu les termes, ces termes cultiver et garder, on va les retrouver dans Lévitique, avec les Lévites, avec les louangeurs, avec les intercesseurs, avec les prêtres. On va retrouver le même vocabulaire en ce qui concerne le temple de Dieu. Donc Dieu a manifesté son temple au travers de la création, mais aussi à travers d'un temple ou d'un tabernacle physique, et aussi dans le jardin au début dans Genèse. Au revoir, soyez bénis. Je suis content que ça vous ait plu. Donc il y a vraiment cette volonté de Dieu dès le départ de rencontrer l'homme et d'avoir cette relation. Et le travail n'est pas une malédiction en soi. C'est devenu à cause de la souffrance qui émane du travail. Mais Dieu lui-même est un grand travailleur. Dieu lui-même se repose de son travail et il nous demande de l'imiter. Donc il y a là un côté investissement dans la création. Ce n'est pas un Dieu qui a créé quelque chose comme... aux États-Unis, ils ont facilement des fermes de fourmis, les ant farms, et puis ils mettent comme ça des fourmis dans un aquarium, puis ils les regardent vivre. Donc notre Dieu n'est pas comme ça, un Dieu qui nous observerait à la loupe, et puis de temps en temps, il y a un rayon de soleil qui passe au travers de la loupe, hop, on a grillé quelques fourmis. Désolé, ça arrive. Mais notre Dieu est vraiment un Dieu qui s'occupe chaque matin de faire lever le soleil. C'est un Dieu qui s'occupe chaque matin de te donner la respiration. C'est un Dieu qui est vraiment investi dans sa création et dans sa créature. Il nous donne de pouvoir vivre. Donc, sachant cela, je trouve que ça change pas mal de choses. Mais je demande vraiment au Saint-Esprit qu'il puisse vous toucher par ce qu'on va dire, parce qu'on n'a pas envie de convaincre humainement. On a juste envie d'être des véhicules et que le Saint-Esprit vous touche. Et on est super content et honoré de pouvoir partager cette vision. Donc voilà ce qu'on trouve dans la Genèse, ce désir de Dieu d'une relation avec l'homme et la femme, et puis ce désir de travail, de créativité, d'entretien, etc. Alors malheureusement, vous connaissez l'histoire, c'est un peu foiré. Et tout au travers de la Bible, on retrouve l'histoire des hommes avec Dieu, on trouve l'histoire de l'échec des hommes avec Dieu, mais c'est jamais l'échec de Dieu. Donc Dieu, il a dit que c'était bon ce qu'il a créé et c'est toujours bon maintenant. C'est toujours quelque chose, il n'a pas dû passer par un plan B. Donc depuis le début, il avait tout prévu. Et si on regarde Cantique des Cantiques, on peut peut-être prendre Cantique des Cantiques 4:12. Si quelqu'un le trouve avant moi, pardon, c'est derrière moi. Thank you. That's awesome. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Donc il y a encore cette histoire de jardin, de rencontre, de relation, d'amour, d'interaction. Et aussi dans Cantique des Cantiques, et là c'est dans 5:1. Yeah! J'entre dans mon jardin. Alors bien sûr, Cantique des Cantiques, ça peut être vu comme étant... l'histoire d'un homme et d'une femme, ou bien de Dieu et de son Église, de Jésus et de son épouse. Il y a plusieurs interprétations, mais je pense que ça parle vraiment de nous, de cette relation avec Dieu qu'on peut avoir. Donc il dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Donc voilà de nouveau, si on remonte la Bible, depuis la Genèse, on se retrouve dans Cantique des Cantiques, juste un bref survol. Et puis dans l'Apocalypse, on trouve aussi un jardin, dans Apocalypse 22:1. Et il me montra, waouh, je suis vraiment impressionné. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, hein, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est quelque chose qu'on a aussi chanté aujourd'hui. Et puis, il y a aussi les arbres dans le verset suivant, ou les versets suivants, avec les feuilles pour la guérison des nations. Donc voilà, de nouveau, un jardin, un lieu de rencontre. Alors, j'ai l'impression que c'est plus un jardin anglais qu'un jardin à la française. Mais je peux vraiment me tromper. Moi, je dirais que c'est vraiment les deux. Pour ceux qui ne savent pas, donc, les jardins anglais, c'est un petit peu laissé aller, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus fouillé. Bien sûr que c'est beau, les deux sont beaux. Et le jardin à la française, c'est un peu ce qu'on retrouve à Versailles, devant les châteaux de la Loire, quelque chose de très carré, de très géométrique, de très équilibré. Donc voilà, je m'imagine juste un petit peu plus comme un jardin à l'anglaise, mais je crois qu'il y a vraiment les deux, pas d'offense. Mais il y a cette volonté de fraîcheur, de relation, de création, de créativité qu'on retrouve dans le jardin. Donc toujours avec cette idée que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu avait une vision, un plan, et il continue. Il a vu que c'était bon. Donc Dieu ne fait pas de tri, il ne fait pas les poubelles recyclées, comme on doit faire ici. On a appris avec beaucoup de plaisir, quand il s'agit d'enseigner à 5 enfants que les coquilles d'œufs, c'est du biodégradable, et que les mouchoirs, si on s'est mouché dedans, c'est aussi du biodégradable, mais s'ils sont secs, on peut les mettre dans le tri sélectif. Alors voilà. Alors je ne sais pas ce qu'on fait si on s'est mouché à moitié. Peut-être que quelqu'un a reçu cette révélation. Voilà. Un petit peu un survol. Alors, au travers de la parole de Dieu, on trouve aussi le tabernacle, le temple de David. Je vais peut-être juste rappeler 2-3 éléments de ce tabernacle. On y vient. On peut peut-être lancer la pub. En attendant, où est-ce que c'est ? Voilà. Donc, on trouve ici, merci Alain Lopez, quelques éléments du tabernacle de David, que j'ai trouvé sur Internet ce matin. Alors, le tabernacle de Moïse, ensuite le tabernacle de David. Donc, celui de David, il se trouvait à Jérusalem, sur le mont Sion. Il y avait une seule pièce avec l'arche. Tous les Lévites pouvaient venir servir et offrir des sacrifices spirituels de louange. Il y avait 24 équipes qui faisaient cela jour et nuit et qui louaient et adoraient Dieu. 4000 instruments de musique, de musiciens. Beaucoup d'expressions différentes de la louange, il y a toute une étude qui peut se faire sur ce sujet, de sauter, de taper dans les mains, de crier à Dieu, de se mettre à genoux, de tourner en rond, etc., etc. Et puis, il était fondé sur la foi et la grâce. Donc, ce que Dieu établit aujourd'hui, c'est rien de nouveau, c'est pas américain, c'est pas un truc à la mode qui va ensuite passer, mais c'est vraiment comme les différentes restaurations que nous avons vécu ensemble, ne serait-ce que le parler en langue, la place de la femme, le salut par la grâce, l'éducation chrétienne que vous connaissez aussi bien ici. C'est une restauration de plus que Dieu veut amener. Et comme toutes ces restaurations, il ne s'agit pas de dire tout ce qu'on faisait avant c'était mal, mais il s'agit de dire merci Seigneur pour ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et il s'agit d'entrer dans ces nouvelles choses ensemble, avec nos couleurs, petit à petit, avec beaucoup d'humilité, avec quelques erreurs, plein de succès et surtout un énorme enthousiasme pour ce que Dieu fait au travers de la terre. Et ce que Vito et toute l'équipe ont partagé tout à l'heure, ça en fait pleinement partie, de redécouvrir la puissance de l'intercession qu'ils connaissent depuis de longues années déjà, l'unité des nations et aussi ce rôle gouvernemental que nous avons à avoir en tant qu'Église. Je vais peut-être donner 7 caractéristiques, il y en aurait d'autres. Et voilà, 7, ça fait chiffre parfait, comme ça, ça paraît spirituel. Alors, quelques caractéristiques donc du tabernacle. Il y a bien sûr une expression spirituelle, avec la louange prophétique, avec la prière, avec la connexion avec Dieu. Ensuite, il y a une expression politique, d'établir le royaume de justice de Dieu, donc l'aspect gouvernemental et la justice de Dieu. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai cru que la justice de Dieu, c'était « t'as fait faux, donc t'es puni ». On en a déjà parlé ici. Et c'est aussi une partie de la justice de Dieu, puisque ceux qui ne veulent pas se repentir, à un moment donné, Dieu punit. Dieu doit aller jusqu'au bout de son jugement. Mais le jugement de Dieu, c'est aussi le fait de rétablir ce qui est tordu. Donc le jugement de Dieu, c'est d'apporter la guérison là où est la maladie. C'est d'apporter l'abondance là où il y a la pauvreté. C'est d'apporter l'égalité ou l'équité là où il y a de l'esclavage, là où il y a de l'abus. Donc la justice de Dieu, ça m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je vous le partage. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est pas grave. La justice de Dieu, c'est d'abord de rétablir les choses qui sont fausses. Voilà pourquoi on peut réclamer justice. Et on n'est pas en train de réclamer une punition, mais on est vraiment en train de réclamer, « Viens Seigneur, fais-nous justice », comme cette veuve dans Luc 18 qui réclame la justice. Et dans Luc 18, c'est un juge inique. Et c'est aussi un juge unique dans l'histoire. Mais c'est d'abord un juge inique, mais il rend quand même justice à un moment donné. Et puis, il y a plein d'autres choses à voir là-dedans. Donc voilà une partie de cette vision du tabernacle qui est puisée dans l'Ancien Testament, qui est reprise aussi dans le Nouveau Testament. Citation de Paul dans Actes 15, versets 16 à 18. Une citation qui nous vient d'Amos 9, 11 à 15. Amos 9, 11 à 15. Ah, ça vient. Ah oui, parce que j'en ai donné deux, ça c'est de ma faute. En ce temps-là, bon boulot, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc il y a une promesse qui est donnée de voir la maison de prière être rétablie, la maison de David, qui peut s'appeler tente de la rencontre, tente d'assignation, etc. Et j'aimerais lire encore dans Agé 1, verset 2, jusqu'au verset 8, Agé 1, verset 2. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. « Est-il le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, verset 5. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Excusez-moi. « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. » J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Donc il y a un appel qui est vraiment clair, c'est de bâtir la maison de l'Éternel. Alors à quoi ça ressemble? Il y a beaucoup de réponses. Mais en tout cas, on est appelé à bâtir la maison de l'Éternel. Et on a appelé à la bâtir, pas juste en attendant, en étant passif, mais si on prend le verset 8, montez sur la montagne. Alors nous, on lit tout le verset 8, comme ça à la suite, puis ensuite on passe au verset 9, mais on peut s'arrêter sur ce verset 8, montez sur la montagne. Moi, quand j'entends ça, je vois déjà les gros souliers. Aujourd'hui, je vois surtout de la transpiration. Au bout d'un moment, cette transpiration, ça devient des odeurs. C'est pénible, mais en même temps, c'est exaltant. Parce que là-haut, il y a une vue, il y a une vision, il y a des perspectives. Et puis, si on passe un petit peu plus loin, apporter du bois. D'après ma logique, si on monte à la montagne et qu'on apporte du bois, c'est qu'on a trouvé du bois là-haut. Donc le bois, il ne se trouve pas dans la plaine, mais il se trouve en haut sur la montagne. Donc notre part, c'est de monter à la montagne, donc ce n'est pas mis « je vous télétransporterai à la montagne », c'est mis « monter à la montagne ». Et quelque chose que j'ai appris en à peu près 25 ans de vie chrétienne, c'est que Dieu, il fait toujours sa part. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas fait, c'est que moi, je n'ai pas fait ma part, c'est en tout cas pas à lui. Donc il nous demande de monter à la montagne, de prendre du bois, donc du coup il va nous fournir du bois, d'accord? Donc on va monter, on va prendre ce bois, donc de nouveau, il ne va pas nous le faire pleuvoir sur la tête, mais on va le prendre, ce bois, ces matériaux, ça peut être des bûches, des brindilles, ça peut être des grandes planches, etc. Peut-être même qu'il va falloir faire les planches nous-mêmes avec ce bois. Et directement après, il nous dit « j'en aurai de la joie ». Tout le monde a suivi ça? Sauf que j'ai loupé une étape. Merci. Il y a Vito qui suit. Non, les autres aussi. Donc, avec ce bois, on va bâtir la maison. Donc, ce n'est pas mis si la maison elle est en haut ou en bas. Mais j'imagine, si on se réfère au tabernacle de David, que c'était sur un mont. Et directement après, en bâtissant... Donc, jusque-là, c'est l'homme qui travaille. Montagne, ramasser du bois, bâtir la maison. Bien sûr, il y a toujours Dieu. Et directement après, il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Directement après, c'est immédiat, il y a cette joie et Dieu est glorifié. Que vouloir de plus ? Après ça, on n'a plus qu'à mourir, hein ? Ou à être enlevé, avec moult chars et du feu. Ok, donc voilà pour ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. Moi, j'ai pas mal parlé, hein. Oui. Ça m'arrangerait. Et bâtissez la maison, ouais. Non, la joie, elle est directement après. Ok, je termine vite, merci. Avec les caractéristiques du tabernacle, puisqu'on n'en a vu qu'une ou deux. Donc on a vu l'expression spirituelle, la louange prophétique, l'expression politique par rapport au gouvernement, par rapport d'établir le royaume de justice de Dieu. Ensuite, il y a aussi une expression messianique, de croire qu'il y a ce reste de croyants fidèles qui se sont levés pour la reconnaissance du Messie. Ensuite, il y a une expression missionnaire, c'est-à-dire que de ce lieu, coule la bénédiction sur les autres. Alors ça commence par nos voisins, sur nos villes, sur notre nation et au-delà. Ensuite, il y a une expression de transformation. Donc cette puissance de transformation du tabernacle qui vient transformer nos vies personnelles, nos couples, nos familles, nos églises, l'implantation d'écoles chrétiennes et la grâce de Dieu qui restaure les villes, qui restaure l'agriculture, ça a aussi été parlé ici, l'agriculture, dans lequel il y a le mot culture. Ensuite, il y a une expression surnaturelle, donc la puissance de Dieu est libérée, des signes, des miracles, sa gloire. Et finalement, une expression eschatologique, ne vous effrayez pas, donc simplement qui annonce la fin des temps, le retour de Jésus. Le retour de Jésus qui est annoncé au travers de nos prières et de la louange. Et je me permets de faire un petit saut dans Apocalypse 5:8. Dans Apocalypse 5:8, on trouve, quand il eut pris le livre, donc Jésus, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, donc ça nous parle de la louange, de la musique, des vibrations, donc de la lumière, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc dans la fin des temps, il y aura une montée en puissance de la prière, de l'intercession, de la louange. Alors il va y avoir deux montées en puissance, puisqu'il y aura la montée en puissance de ce mouvement de louange du monde, de ce mouvement de louange du monde qui s'attache à l'apparence, qui s'attache à la séduction, qui s'attache à l'argent, à la gloire éphémère. Donc tout ce qu'on peut trouver sur MTV ou bien en général à la télévision. Et puis il y a cet autre mouvement de louange qui se lève et qui va prôner exactement le contraire, c'est-à-dire la pureté, la beauté, l'humilité, qui va prôner la prière, l'intercession, l'attachement à Dieu et la fascination, non pas par une multitude d'idoles dont on se lasse et trois mois après il faut passer à la suivante, mais par le seul vrai Dieu, le seul capable de fasciner le cœur de l'être humain pour toute l'éternité. Et ça fait longtemps.
Ok, concrètement, quand il a parlé de transformation, on peut déjà regarder dans la Bible, dans l'Ancien Testament. J'aime beaucoup aller voir quand je me pose des questions, quand j'ai des choses à voir de ce que Dieu veut nous dire. J'aime beaucoup aller dans le peuple d'Israël, du temps de leur périple entre l'Égypte et la Terre promise. Tout ce qu'ils ont vécu, parce que je me reconnais beaucoup dans cette traversée, et pour voir... comment Dieu a impacté, qu'est-ce qu'il a amené, comment il a amené des solutions et aussi comment le peuple a réagi, est-ce que ça a amorté comme fruit. Et au niveau du peuple d'Israël, eh bien, tu vois dès le début que Dieu a décidé, quand ils allaient le suivre, partir de l'Égypte, quitter l'esclavage, qu'il a décidé vraiment de mettre une nuée ou une colonne de feu à la tête du peuple pour les conduire. Et c'était vraiment quelque chose qui manifeste sa présence et que le peuple avait besoin d'avoir pour suivre, pour savoir déjà où aller, pour suivre Dieu, mais aussi avait besoin d'avoir sa présence dans leur journalier, parce que si vous lisez tous ces livres du début de la Bible, vous verrez que quand le tabernacle après physique que Dieu a donné aussi n'était pas présent au milieu du peuple, le peuple perdait des guerres. Et donc la présence de Dieu amenait clairement, d'une manière très flagrante, des défaites ou des victoires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappée. On sait, on dit que la louange est une arme de victoire, mais ça allait même au-delà que justement, comme on a déjà eu dit, des premières pompiers où on dit « Seigneur, parce que là, ça ne va pas, manifeste ta présence et réponds-moi. » Et souvent, dans sa grâce, Dieu le fait. Mais là, ça parle vraiment d'une présence perpétuelle de Dieu au milieu du peuple. Et je peux vous dire, avec ces 2 ans que nous avons passés à Kansas City, eux qui y sont déjà en 24-7, alors ça c'est très loin en avant, mais on parle de la vision, mais qui sont dans le 24-7 depuis 14 ans, je peux vous dire qu'il y a une énorme différence qui s'est faite, pas seulement, comme il a dit, premièrement dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos familles, mais dans la ville, dans la région. Dieu a rétabli justice dans énormément de choses. Et une petite anecdote, ça peut vous faire rire ou pas, mais ce n'est pas pour vous effrayer. Ils ont même un service de sécurité assez présent parce qu'ils sont attaqués parfois par justement des mouvements qui ne sont pas pro-life, c'est-à-dire qui sont pour l'avortement, des mouvements la traite des blanches. Ils prient beaucoup contre le trafic humain et ils sont en train de bouger, de shaker des énormes forteresses de ce qui se passe par la puissance du mal. Et donc ça montre vraiment que la lumière fait place. Et il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, le maire de Grandview, là où se présente physiquement la maison de prière, il a dit que ça avait changé énormément de choses dans sa ville. Et ça, c'est génial, rien que de voir que ça a atteint au-delà de nos propres vies. Et dans ma propre vie, pour vous dire, il y a des gens d'où je viens qui à la limite disaient « Mais qu'est-ce que tu vas aller t'enfermer dans une maison de prière là-bas aux États-Unis alors qu'on a beaucoup de jobs ici ?» Eh bien, j'ai réalisé à quel point ça avait changé ma vie, pas parce que je demandais « change ma vie, change ma vie, change ma vie » puis que je faisais des efforts pour changer les choses, mais parce que je me tenais à ses pieds. Et là, pendant ces 2 dernières années, l'histoire de Marie et de Marthe a énormément touché ma vie. Peut-être certains ne la connaissent pas, d'autres peut-être oui, mais en grosse ligne, il y avait 2 sœurs, elles étaient très proches de Jésus, et il y en avait une qui s'activait beaucoup, et il y en avait une qui était assise au pied de Jésus à l'écouter et à l'adorer. Et il y a eu une petite dispute par rapport au fait que la sœur qui s'activait beaucoup a dit à Jésus mais qu'elle était un peu outrée parce que l'autre perdait du temps au pied de Jésus alors qu'elle devait tout faire, etc. Et à un moment donné, j'ai réalisé que Dieu voulait que je sois vraiment cette Marthe beaucoup plus. Et c'est vrai que j'ai 20 ans de leadership, de louange, je suis engagée dans la louange avec nos familles, avec notre famille, dans énormément de choses, et je me refusais de me dire que j'étais pas déjà mariée. Et j'examinais ma vie, et plus j'avançais dans ce cheminement dans mon cœur, et que je voyais ce qui se faisait là-bas, dans ce temple où je baignais dans la présence de Dieu, plus je voyais que j'étais en train de passer de Marthe à Marie quand même dans mon cœur et dans la pratique. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, mais tu vois, Marthe, elle était très proche de moi, de Jésus. Elle l'adorait, elle faisait tout pour lui. Elle lui faisait la cuisine, elle lui préparait tout. C'est génial, moi je voyais qu'au fait, je faisais aussi tout pour lui. C'était vraiment d'un énorme cœur. Mais Jésus a tranché et a dit à Marthe, c'est elle qui a choisi la bonne part, c'est Marie. Et ça, c'est clash, c'est t'as beau tout faire avec le meilleur cœur, passer ta vie entière à faire des choses pour Dieu, te donner, louer Dieu, à un moment donné, il fallait s'asseoir et passer dessous et se dire, ok, maintenant je vais passer plus de temps à t'écouter et à te laisser m'impacter que de faire pour toi. Et ça, ça a fait un énorme cheminement en moi. Et je peux vous dire que dans ma vie, tout d'un coup, j'ai réalisé, sans avoir du tout fait des efforts pour, il y a des choses qui commençaient à changer. Il y a tout d'un coup des idées que j'avais enfouies, Dieu est venu les ressortir. Et puis, je commençais à pleurer là, dans la maison de prière avec ma Bible parce que Dieu mettait le doigt sur un texte. Des textes que j'avais déjà lus 100 fois commençaient à venir avec une nouvelle perspective. J'avais l'impression d'avoir une manne nouvelle tous les jours. Tous les jours, je pense que je ne fais pas tout juste maintenant et j'aspire à beaucoup plus. Mais je pense que des fois, j'ai pris la manne des jours d'avant parce que je crevais de faim et parce que j'en avais en réserve. Mais là, tout d'un coup, je voyais que chaque jour, en allant au pied de Jésus, autour de sa nuée, dans sa présence, dans son temple, j'avais cette manne journalière, j'avais cette vie qui venait en moi et qui changeait tout en moi sans que j'aie besoin de faire des efforts humains.
Merci beaucoup. Donc concrètement, la tente de la rencontre, maison de prière qui se vit ici, elle existe déjà depuis plusieurs années. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ça a pris un nouvel essor. Donc il y a une nouvelle emphase qui est mise dessus. Il y a aussi plus de veille. Donc l'idée, c'est vraiment que toute l'Église, c'est que chacun se positionne par rapport à ça et puisse entrer petit à petit dans cette restauration en étant convaincu par Dieu. L'attente de la rencontre, c'est surtout pas une réunion de plus ou quelques réunions de plus dans la semaine que l'on devrait rajouter à un agenda déjà peut-être surchargé. L'attente de la rencontre, dans son incarnation, c'est d'abord un style de vie. C'est d'abord une respiration spirituelle. C'est un choix de vie. Et en faisant le pas de foi d'en faire moins dans sa vie, peut-être prendre un travail à temps partiel, de regarder moins la télé, il y a aussi la notion de sacrifice, de jeûner des choses qui nous stimulent, ça peut être des relations qui ne sont pas du tout malsaines, ça peut être la télé, ça peut être la nourriture, mais de jeûner de ces choses qui nous stimulent pour recevoir notre nourriture de Dieu et de Jésus. Donc c'est une réorientation, alors plus ou moins grande, suivant où on en est dans notre marche avec Dieu, mais c'est le choix d'une église, d'une réorientation, d'une refocalisation sur la gloire de Jésus. Alors l'idée de base, c'est que ça puisse naître, que ça puisse être enraciné dans la fascination que l'on découvre avec Jésus. Si on est fasciné par le péché, si on est fasciné par sa voiture, si on est fasciné par quelque chose, on va automatiquement avoir nos pensées qui vont vers cette chose, notre argent et notre temps. Donc l'idée, ce n'est pas maintenant, même s'il y a aussi le côté obéissance et Dieu bénit cette obéissance, mais l'idée, c'est que de manière couplée, il y a un engagement volontaire de choix de prendre plus de temps avec Dieu, de passer plus de temps dans sa présence, mais couplé à cela pour pouvoir durer dans le temps, parce que c'est ça au fait l'objectif, c'est qu'on se retrouve dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et qu'on soit toujours en train de le faire, et toujours en train de découvrir Jésus. Alors, certains se disent peut-être, mais moi je vis ça tous les jours chez moi, je vis ça régulièrement. Ben, je dirais oui, bien sûr, heureusement, alléluia, gloire à Dieu. Mais dans cette vision, dans ce désir de Dieu, de l'attente de la rencontre, il y a une dimension supplémentaire. Je dirais que l'attente de la rencontre ne peut pas remplacer mes temps personnels avec Dieu et vice-versa. Donc, l'attente de la rencontre, c'est un lieu, mais c'est aussi un état d'esprit, puisque ça peut aussi être dehors, ça peut aussi être chez soi. Je dirais que nos familles ou nos vies personnelles, premièrement, doivent être une tente de la rencontre. Mais après, il faut que ça s'incarne, évidemment, parce qu'en général, quand on parle de grands principes et de vision, tout le monde est d'accord. Mais comme on dit en anglais, the devil is in the details, le diable est dans des détails, quand on commence à être pratique, c'est là qu'il peut y avoir des divisions. Donc l'idée, c'est de se retrouver, et vous avez vu, il y a un horaire, mais d'être très très volontaire dans le fait de se retrouver. Alors ça peut être une demi-heure par jour, ça peut être une heure, ça peut être deux heures, ça peut être quatre heures. ce qui importe, c'est qu'il y ait cette respiration quotidienne. Donc, je dirais qu'on en est au balbutiement dans sa forme actuelle. Il y a tout un puits qui a été creusé auparavant, toute une réflexion qui a été menée parmi les responsables. Mais dans son incarnation plus avancée, on en est au début. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place. Et l'invitation est là, d'incarner les choses en se retrouvant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est en tout cas pas une rencontre de plus. Quand on vient d'abord pour rencontrer Jésus. Alors, bien sûr, il n'est pas interdit de parler avec les gens avant ou après, ou de se dire bonjour, hein, bien évidemment, mais c'est venir pour rencontrer Jésus. Ensuite, c'est venir avec une atmosphère spirituelle. Et tout le monde sait à quel point la musique aide, même si c'est aussi bien de chanter sans musique, comme Vito nous l'a encouragé tout à l'heure. Hein. Souvent, quand la musique, c'est là qu'on voit la puissance de la musique, elle s'arrête. Tout d'un coup, on a l'impression que tout s'arrête. Donc, la musique n'est pas Dieu, mais c'est quand même un outil de Dieu qui nous aide. Donc, ça ouvre nos émotions, ça ouvre notre cœur. Donc, c'est un lieu vraiment de rencontre où je vais découvrir Dieu. Donc, il n'y a pas un menu tout prêt, il y a quelque chose qui se déroule. Ça peut être avec un groupe de louanges, ça peut être avec une seule personne. Donc il y a simplement une atmosphère, mais il n'y a pas un menu tout prêt, c'est un buffet. Alors pour ça, il y a aussi besoin de développer des outils de rencontre avec Dieu. Certaines personnes le rencontrent plus facilement au travers du dessin, ou de la parole, ou de l'écriture, au travers de l'artistique, au travers des autres, etc. Donc il y a une multitude de manières de rencontrer Dieu. Mais l'attente de la rencontre, c'est un endroit privilégié où on met du temps à part, où c'est quelque part fermer la porte à clé, comme nous le dit la parole, à tout ce qui est distraction extérieure, parce qu'on peut aussi le faire à la maison, mais parfois c'est plus difficile, et parfois on a simplement besoin de faire ces actes très concrets, de se mettre à l'écart. Donc c'est un lieu qui a un horaire, et c'est une vision, et c'est la présence de Dieu, et c'est venir, et c'est ensuite voir Dieu à l'œuvre. Parce que quand on met Dieu à l'épreuve de cette sorte, comme il est parlé dans Michée par rapport à la dîme, ensuite il intervient et il ouvre les écluses des cieux. Donc il pourra y avoir encore beaucoup d'enseignements à ce sujet, mais il y a vraiment une volonté de découvrir Dieu par la parole, la prière et par la louange.
Prenons un petit exemple dans le psaume, je vous laisse le psaume 27, 4 à 6. J'affectionne particulièrement, c'est David, dont on vient de parler avant par rapport au tabernacle de David. C'est lui qui a relevé cette adoration perpétuelle avec 4000 louangeurs. Et il dit qu'un seul souhait, et celui, ce qui lui tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Alors on ne vous demande pas de venir habiter ici, mais c'est pour montrer à quel point son cœur, c'est celui qui a fait les plus beaux psaumes à mon avis dans la parole de Dieu. C'est un homme tellement proche, et il est dit dans sa parole selon le cœur de Dieu, il dit je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer, et là ça parle d'adoration, l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître. Là, ça parle de chercher du bois, ça parle d'action, de faire quelque chose. Donc, il n'a pas que adoré, de chercher à le connaître dans sa demeure. Car, et là, ça parle de tout côté de protection, c'est assez fou, il me cache sous sa tente dans les jours du malheur, au secret de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher, et il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Ça parle vraiment de, comme je disais tout à l'heure, cette nuée, et cette colonne de feu, ce tabernacle, quand le peuple était vraiment autour et croyait en la présence de Dieu, ils gagnaient les batailles. Et là, ça parle même, ils étaient protégés. Les autres mouraient sans qu'ils aient forcément eu besoin des fois de sortir l'épée. Oui, bon ben, ouais, enfin bref. Et j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie et je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments, etc.
Et là, on parle de David qui était roi, hein, donc il était bien occupé, il avait bien des choses à faire. En plus, je crois qu'il avait plusieurs épouses, donc ça aussi, ça prend énormément de temps. Hein. Donc voilà, lui, il a réussi à dégager du temps pour être dans la maison de Dieu. J'aimerais qu'on passe à deux petits témoignages. Deux témoignages différents. On va commencer peut-être par Nadine, qui est venue dans la maison de prière, dans la tente de la rencontre, avec un aspect tout à fait particulier à elle, que j'ai beaucoup aimé. Donc si tu pouvais nous partager ça, merci beaucoup.
En fait, je suis venue pour la première fois à la maison de prière. vendredi soir. J'ai toujours voulu aller au set de Rusty, David et tout, mais bon, j'étais plus occupée. Mais ce vendredi, j'avais vraiment à cœur d'y aller, mais j'avais des préparations à faire pour samedi par rapport au temps d'intercession qu'on a eu hier. Donc je suis venue parce que j'avais envie juste d'être dans l'atmosphère de la présence de Dieu. J'ai pris mon ordi, je me suis mise à l'arrière, j'ai branché mon ordi et j'ai relu toutes les notes par rapport au chant du mensonge et j'ai préparé un petit peu mes prières d'intercession, de repentance. Mais j'étais vraiment dans l'atmosphère. Alors j'aurais pu le faire à la maison, il n'y a pas de souci. Mais c'était juste que c'est aussi un endroit et j'ai pu venir à un moment donné et prier. Donc je travaillais, j'étais focus sur ce que je faisais, mais j'étais aussi dans la présence de Dieu. Et ce qui est important de savoir, c'est que notre esprit, lui, il est connecté avec l'esprit. Donc en même temps, quand je suis sortie, j'étais rafraîchie, j'avais avancé dans mon travail. J'aurais pu le faire à la maison, vraiment. Mais c'était juste, waouh, ok, c'est pas juste, on ne doit pas juste venir fermer nos yeux et être dans une position comme on a l'habitude de penser, mais c'est aussi venir et être efficace dans ce qu'on a à faire. Alors voilà, c'était ça. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, je reviendrai. Mais si j'ai des mails à faire, importants ou quoi, je veux aussi les faire dans cette attitude d'être baignée dans la présence de Dieu. Et de voilà. Donc c'était juste encourageant parce qu'à la fin, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai avancé et j'ai été super bénie. Voilà.
Merci beaucoup, Nadine. J'ai beaucoup aimé ça. On ne veut pas être...
Mais voilà, je veux dire, je suis venue ici, mais j'aimerais venir aussi aux autres sets. Ça s'est passé ici, mais c'est vraiment de dire je vais et je dans la présence de Dieu, quel que soit le créneau du soir m'arrange mieux. Mais voilà, donc vraiment, c'est pas juste aller prier et être.
C'est vraiment ce désir de ne pas être dualiste non plus, que vraiment Dieu, ce mandat culturel puisse être dans toutes nos activités.
Parce qu'idéalement, si je peux me permettre cette petite anecdote, c'est à moitié un gag, sur du 24-7, si c'est une maison de prière qui finalement tourne 24-7, on trouve toujours des moments qui est notre moment où on peut dégager le plus de temps. C'est pour revenir à ce que tu disais.
Moi, donc, je vais partager ce que j'ai vécu aux USA, donc avec mon père et ma mère. Je suis allé 2 ans aussi aux USA, à Kansas City, la maison de prière, et là-bas, j'ai expérimenté quelque chose d'assez fort, notamment l'été passé. Dieu m'a vraiment touché et a transformé ma vie. Donc, ça a commencé vraiment pendant les vacances d'été où j'étais un peu lassé de la vie que j'avais. Et j'ai toujours été chrétien, je suis toujours allé dans une école chrétienne. Je connaissais ce qu'était la Bible, je connaissais Jésus, Dieu, mais c'était des choses que je connaissais aussi dans ma tête, mais que je ne connaissais pas trop dans mon cœur. Et c'est vraiment l'été passé que j'ai commencé à chercher Dieu et j'ai dit, ben, si tu existes vraiment, ben, je veux plus que ça parce que je ne suis pas satisfait de cette vie comme un peu entre deux, entre l'Église et entre le monde que j'ai. Alors j'ai vraiment commencé à rechercher Dieu, à rechercher sa face, notamment avec l'aide de la maison de prière. J'allais souvent dans la maison de prière pour lire la Bible et parler à Dieu. Et il a vraiment commencé à transformer mon cœur et à vraiment me changer et à me libérer de certaines choses. Il y a certaines addictions que j'avais qui sont tombées à cause du Saint-Esprit qui est venu en moi et qui a commencé à remplacer certaines mauvaises choses par de bonnes choses. Et là où il y avait, les ténèbres, il est venu mettre sa lumière. Et j'ai vraiment été touché aussi par des moments où j'ai décidé de passer des nuits dans la maison de prière sans dormir, où j'avais décidé de faire des jeûnes, de me priver de nourriture et plutôt de chercher Dieu plus que la nourriture. Et il a vraiment été fidèle et j'ai fait ma part. Je l'ai vraiment cherché de tout mon cœur. Et lui, il est venu vraiment me toucher. Il m'a vraiment impacté. Et il a mis un feu en moi que personne ne peut éteindre. Et je dirais que c'est vraiment là, depuis l'été passé, que j'ai commencé à devenir chrétien, quelqu'un comme un disciple, quelqu'un qui est en feu pour Dieu et qui expérimente la réalité de devenir comme Christ, devenir comme Jésus, petit à petit transformé par la Bible et par le Saint-Esprit qui est en moi. Donc, voilà.
Amen, merci. D'ailleurs, pour vous dire, mon mari et moi, on a toujours eu un grand fardeau pour la jeunesse et on a un appel au niveau de la louange. Et plus on était là-bas, plus on a réalisé que ce n'est pas deux choses, mais c'est une chose. C'est vraiment une chose, c'est-à-dire Dieu dans notre quotidien pour la jeunesse, c'est ça qui va faire la différence. Et il y a encore énormément à dire, mais on va bientôt clore. J'aimerais dire une chose qui m'a énormément touchée, qui est vraiment quelque chose que... Qui va changer la société. aujourd'hui, parce qu'on vit dans une culture, la culture du monde, et je dirais qu'on la sent particulièrement ici en Europe. Là-bas, tu as un chrétien sur quatre, il y en a un qui est chrétien, donc tu sens cette culture de Dieu beaucoup plus forte. Ici, un chrétien sur 100, alors que souvent même on la ferme, et tu sens cette culture du monde qui est lourde, qui souvent ne fait pas la différence, et on pourra développer ça une autre fois. Mais il y a une chose qui, petit à petit, quand j'allais le matin, les premiers mois, on a fait des créneaux à 6 heures du matin, on allait avec mon mari, et plusieurs fois, je me suis surprise à commencer à pleurer en regardant les gens qui étaient autour de moi. Et j'ai vu des hommes... J'ai vu des pères de famille, des hommes d'affaires en costard-cravate sur le chemin du travail, avec leur Bible, les bras levés, ou prosternés, ou assis, ou peu importe la position, mais c'est pour vous dire ce que j'ai vu, et j'ai commencé à pleurer, parce que d'où je viens, et peu importe où c'est, mais je viens de l'Europe, j'ai l'habitude de voir des hommes, et excusez-moi, je vise personne ici, je parle de mon vécu, de voir beaucoup d'hommes, s'ils sont là à l'église, de les voir des fois dormir, pas forcément prendre leur place dans la famille, pas être à fond dans leur job, pas dégager du temps pour Dieu forcément, pas ce genre de gars-là. Il y en a, bien sûr, je vous rassure. Mais quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, Seigneur, je veux ça en Europe, c'est Père, ces hommes qui reprennent leur place, qui se lèvent et qui donnent leur temps, qui viennent te trouver au temple, même qu'ils ont un job qui peut-être les prenne énormément, mais qui viennent à 6 heures ou le soir ou la nuit ou le milieu de la journée, peu importe, mais qui viennent et qui te donnent du temps. Et ça change la vie, ça change, on peut en témoigner, ça change nos couples, ça change nos familles, ça change nos églises, ça change tout.
Voilà, on va arriver gentiment à une conclusion. Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais juste terminer en disant que la tente de la rencontre, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas pour quelques personnes qui aiment beaucoup la louange ou bien la musique, c'est vraiment pour tout le monde, puisqu'il y a de la musique, il y a du chant, il y a de la prière, il y a l'étude de la parole de Dieu. Donc autant d'outils qui vont aussi être enseignés, autant d'outils qui vont se développer pour que pendant ces temps de rencontre avec Dieu, il y ait vraiment une fascination de Dieu. Et pour ça, eh bien, il y a des outils pour découvrir, être fasciné dans sa parole, dans la prière, dans la louange, en découvrant Jésus. J'aimerais aussi encourager ceux qui veulent venir en famille, que ce n'est pas un problème d'avoir des enfants, si vous voulez commencer en venant une demi-heure, 20 minutes, que ce soit le matin ou le soir, possibilité de colorier, d'être avec eux, de chanter, de danser. Donc ça se veut vraiment ouvert à chacun dans la manifestation de ce que chacun veut vivre et vraiment largement ouvert aux familles, que pour les enfants ce soit quelque chose de normal de venir au temple chaque jour. J'aimerais aussi dire que c'est pour tous les horizons. On ne peut pas juste dire « je suis plutôt évangéliste » ou bien « je suis plutôt missionnaire, ce n'est pas vraiment mon truc ». Je crois que de ce lieu de rencontre, ensuite toutes les activités peuvent émaner pour aller évangéliser avec puissance, pour aller intercéder. Donc c'est simplement cette vie d'adorateur, donc ça s'adresse à tout le monde. Après ce qu'on y fait dedans, on va tous faire quelque chose d'un petit peu différent. Certains vont marcher, prier en langue, d'autres vont écrire, d'autres vont lire, d'autres vont faire un petit peu du travail, parce que voilà, etc. Donc c'est vraiment pas pour un profil donné ou pour une élite, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui est en croissance, qui a déjà commencé il y a des années ici, dans son incarnation à l'église Josué, mais c'est quelque chose qui se veut aussi à la disposition d'autres églises, d'autres personnes, que les gens puissent être touchés. Donc c'est en croissance. Donc ayant aussi cette idée que si tout n'est pas parfait maintenant, ou s'il n'y a pas les créneaux qu'on veut, etc., ce n'est pas grave, c'est en croissance. Dieu est un Dieu de croissance et il arrive toujours au bout de ce qu'il ordonne. Et puis c'est vraiment un lieu merveilleux de rencontre avec Dieu. Et le culte prend une fois de plus tout son sens en tant que réunion une fois par semaine de tout le corps de Christ local à un endroit donné, puisque pendant la semaine, il aura été construit toutes sortes de beaux édifices intérieurs que le Saint-Esprit nous aura donnés. Et notre magnifique feu d'artifice en commun du dimanche matin sera encore plus beau. Et le bouquet final ne sera que le début de ce feu d'artifice pour des horizons plus loin. Donc c'est une puissance de Dieu pour bâtir ensemble et se retrouver enfin le dimanche. C'est totalement complémentaire et ça va ensemble. Je vous remercie beaucoup. On se tient à disposition, nous, bien toute l'équipe d'attente de la rencontre, les responsables, les autres. Merci beaucoup pour votre attention. On vous bénit, on vous aime, on est vraiment content d'être là.